quand la BCE ou la Banque d'Angleterre rachète des obligations des États, c'est obligatoirement avec de l'argent imprimé et, enfin, avec quel argent elle rachète les obligations
des États? Ça dépend, des fois elle échange. Je veux venir sur cette partie-là, je veux juste finir sur la deuxième partie pardon, du défaut, puisque c'était beaucoup de choses, excusez-moi. Je veux dire, bon, l'agence France Trésor va revenir, elle ne trouve pas l'argent. Donc il y a, dans mon petit exemple, 20 à payer, on n'a que 10. Elle ne peut pas payer, elle ne peut pas payer. Il y a une autre possibilité réelle, c'est-à-dire, c'est pas grave, je vais saisir le patrimoine des Français. C'est ce que vous disent la plupart des économistes néoconservateurs quand ils disent à raison, mais l'État n'est jamais insolvable, l'État il peut toujours saisir. Bien sûr que le montant que doit l'État est, somme toute, entre guillemets, faible par rapport au patrimoine du pays. Enfin, faible, je répète, c'est comme la moitié de l'épargne financière de tous les Français. Donc, quand on dit la dette aujourd'hui, c'est la moitié de votre compte courant, la moitié de votre livret A, la moitié de vos obligations, la moitié de vos actions, la moitié de vos assurances vie, la moitié de vos SICAV. Il y a un peu ce que ça représente chez vous, c'est 50%. En théorie, ils ont raison, l'État peut très bien dire, je vais faire passer une loi où je vais saisir la moitié de votre épargne. Ah, puisque c'est ça le choix. Hein. Il faut payer, on va payer. Mais sauf que je ne peux plus rouler ma dette, donc je vais appeler en termes d'impôt. Comme je ne peux pas augmenter l'impôt sur le revenu vite fait, il faut que j'aille saisir directement le patrimoine, puisque j'ai en gros un mois ou deux pour récupérer de l'argent pour faire face à mes échéances. Bon, moi, j'attends de voir 300 députés qui vont voter une saisie de la moitié de l'épargne des Français pour rembourser la dette. Enfin, en tout cas, sur 2012, ce serait 25%. On est sur des montants gigantesques. Pensez à ça aussi. J'essaye de pas trop abreuver de chiffres, c'est compliqué surtout à l'oral. 1600 milliards de dettes. Bon, on est 66 millions de Français. C'est à peu près 35 millions de ménages. Donc les ménages, une bonne moitié, en gros, n'a rien. Quasiment rien. Si vous avez suivi la série cet été, vous avez vu 50% des Français ont 7% du patrimoine, donc ils n'ont rien. Alors, je vais donc m'occuper des 50% qui ont quelque chose. Je n'ai pas dit beaucoup, j'ai dit juste en gros quelque chose. Donc 50% des ménages, ça fait 16 millions de ménages qui ont un patrimoine un peu conséquent, qui payent l'impôt sur le revenu. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si vous payez l'impôt sur le revenu. Si vous payez l'impôt sur le revenu, vous faites partie des 16 millions des ménages, la moitié, qui payent l'impôt sur le revenu et qui ont un peu quelque chose pour vivre. La dette, c'est 100 000 euros pour chaque ménage. 1600 milliards pour 16 millions. Regardez, ça fait 100 000 euros de dette par ménage. Est-ce que vous voyez tous sortir 100 000 euros? Je pose la question, hein. C'est ça le niveau de dette. S'il y a un pépin, il faut sortir le tiers l'année prochaine. Est-ce que vous avez tous checké 33 000 euros d'impôts à payer pour rembourser la dette? Je rappelle, est en plus détenue par uniquement à 70%, 10% de la population. Donc là, vous allez faire un chèque. J'ai caricaturé dans une des interventions en disant Liane Bettencourt, non, mais enfin quand même, 10% des Français les plus riches. Est-ce que vous voyez faire ça? Moi, je pose la question. Historiquement, ça s'est jamais fait. Moi, je l'ai jamais vu. Je sais pas. C'est quelqu'un. Je suis preneur. Un État qui fait ça. Parce que l'État, il a le choix de faire ça ou de pas payer ses créanciers. Généralement, il va pas s'embêter à essayer de faire passer ce genre de loi. Surtout que la chose assez amusante, c'est que si je fais défaut, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a des obligations publiques les perds. On va lui dire, t'es pas remboursé. Ou t'es pas remboursé à 80%. De toute façon, le défaut, il sera jamais de 100% pour pas toucher tout le monde non plus. Quand vous faites un défaut de 70%, vous touchez, je viens de le dire, 10% de la population. 90% des gens ne seront pas touchés par un défaut, en théorie. Je dis pas que c'est simple, je répète, j'ai passé une super solution. C'est dramatique, mais voilà. En tout cas, j'essaye de voir ce qui peut se passer. Donc, vous faites on peut appeler ça un haircut de 70% sur votre dette. À force de parler, j'ai perdu le fil du coup. Ça y est. Je disais quoi juste avant? Les 10 millions.
10% de la population serait touchée par un défaut de 70%.
Ouais, juste avant, c'était. Oui, c'est ça, l'État c'est ça, excusez-moi. Ah, donc si je fais ça, en gros, ceux qui ont des gros patrimoines et des grosses épargnes, on va leur dire une partie de votre épargne qui était investie en obligations d'État, vous la. Désolé, hein. C'est pas bien, vous la perdez. Tout comme si vous avez acheté des actions Société Générale il y a 3 ans, au double d'aujourd'hui, 5 ou 6 fois plus cher qu'aujourd'hui, désolé, c'est un mauvais choix. Donc, c'est très désagréable pour ces personnes-là. Je dis pas que c'est bien individuellement, mais enfin, ils ont perdu leur épargne. Si vous faites l'option B, qui veut dire, vous trouvez 300 députés courageux qui sont prêts à aller voter une saisie de l'épargne. Mais vous allez saisir l'épargne de qui? Des mêmes personnes. Vous allez saisir l'épargne de celui qui a de l'épargne. Donc, vous allez prendre de l'argent à celui qui a déjà votre épargne en question, Et donc pour lui, ça va lui faire une belle jambe de dire, tiens, j'ai prêté 1000 à l'État, il me les rembourse pas. Ou de dire, j'ai prêté 1000 à l'État, ah bah tiens, il me demande 1000 d'impôts, il va me rendre 1000. Ah, j'ai perdu 1000 hein, dans l'histoire, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'en général, les États font défaut sur leurs créanciers, ça leur pose beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes que d'essayer de saisir l'épargne des populations. Mais c'est aussi une deuxième possibilité. La troisième, et on y arrive, qui est la centrale, qui est l'impression monétaire, la création monétaire. La création monétaire, donc 400 milliards de besoins de financement l'année prochaine, ça ne nous prête plus d'argent. Parce que c'est bien beau d'aller vilipender les marchés, de nous expliquer que les marchés font la loi maintenant, quelle honte pour la démocratie, les marchés font n'importe quoi, vous allez voir ce que vous allez voir, on va les mettre au pas. Oui, bah, faut juste pas leur demander 400 milliards tous les ans. 400 milliards de gens qui sont juste en train de placer de l'épargne et qui ont envie de la revoir. 400 milliards, donc si vous ne faites pas défaut et si vous ne saisissez pas l'épargne des Français, bah, ok, vous avez une possibilité théorique, je rappelle, interdite par les traités européens, d'imprimer 400 milliards. 400 milliards, c'est pas très loin de la moitié de la masse monétaire française. Donc, monétariste vous dira que c'est sans doute pas très loin de déclencher, si vous faites ça, une inflation de 30 à 50% dans le meilleur des cas. Vous imaginez 50% d'inflation l'année prochaine. Je ne sais pas quelle est votre capacité personnelle d'aller négocier avec votre patron 50% d'augmentation en cas de hausse de l'inflation. Parce que s'il y a de l'inflation, elle n'est que chez nous. Hein. Elle n'est pas en Chine, elle n'est pas aux États-Unis. Donc, on vous dira toujours que, attendez, concurrence internationale, productivité, compétitivité, on ne peut pas augmenter de cette façon-là. Donc voilà, c'est un jeu très très dangereux. À chaque fois qu'on l'a fait, ça déclenche ce genre de choses, qui est une façon de régler. Évidemment, vous pouvez essayer de régler par hyperinflation votre dette. Que le créancier vous le remboursiez pas ou que vous le remboursez, je répète, en ticket de Monopoly, je suis pas sûr que ça lui fasse une jambe beaucoup plus belle dans le deuxième cas que dans le premier. Mais j'y vois juste une chose, c'est que vous êtes en train de mettre l'économie à terre en plus dans ce système-là. Et qu'est-ce que l'inflation si ce n'est un impôt déguisé? Vous allez détruire la valeur et la richesse du patrimoine de chacun. Alors, dessus des rentiers et du patrimoine des rentiers, bon, ok, c'est une chose. Mais vous allez détruire la valeur du salaire de tout un chacun, la valeur des pensions de tout un chacun. Enfin, c'est dramatique d'arriver à ce genre de choses. Qui se répète, hein, c'est maintenant, si vous allumez la radio ou la télé, c'est à peu près tout le monde vous dit ça. C'est fou. On l'a fait 50 fois dans l'histoire, 50 fois ça s'est mal passé, mais c'est pas grave, on va continuer. On essaie de nous faire croire que ça va déclencher 5% d'inflation. Non, les volumes, c'est pas du tout 5% d'inflation. Qui déjà poserait de sérieux problèmes, 5% d'inflation. Vous n'êtes pas capable d'avoir des hausses de salaire qui compensent ça, donc c'est forcément de la récession. Mais à 40 à 50% d'inflation, je répète, la première année, hein, parce que la deuxième, c'est bingo, vous recommencez. C'est 1600 milliards qui a monétisé. Hein, avec, mon hypothèse, c'était les 400 de 2012. Il y a 2013, 2014, 2015 après à rouler. Voilà. Faut pas rêver. Quand il y a ce genre de choses, les gens essayent de se battre contre la comptabilité. Je suis désolé, la comptabilité va gagner. C'est triste, mais c'est comme ça. Pourquoi? Bah, parce qu'on a dépensé hier l'argent d'aujourd'hui. Quoi. Le même argent a été dépensé deux fois. C'est ça le principe de la dette. Par le passé, en tant que contribuable, hein, où on a tous gardé notre argent et on l'a dépensé comme on voulait, et en même temps, l'État a dépensé de l'argent en notre nom en disant bah tiens ça fera de la dette à rembourser plus tard et a fait lui-même des dépenses de consommation. Donc le même argent, pour ça que lui, a été dépensé deux fois. Un euro de dette, c'est un euro d'impôt futur. Moi je suis assez halluciné des discours à la surtout n'augmentons pas les impôts. Bon, oui, c'est sûr. Mais j'ai une bonne idée, on va faire 100 milliards de dettes cette année. Enfin, 100 milliards de dettes cette année, c'est normalement, si vous ne faites pas défaut, 100 milliards d'impôts demain. C'est pareil. Il y a pas, c'est pas miraculeux, c'est juste de l'avance de trésorerie en théorie. Et donc toutes ces sommes-là, elles sont dues, et il va bien falloir rééquilibrer les comptes d'une façon ou d'une autre. En fait, tant qu'on nous prête de l'argent et que ça roule, vous êtes dans un jeu, dans une cavalerie, dans un schéma de Ponzi, ça s'appelle aussi, ou du Madoff, hein, vous êtes les nouveaux entrants payent pour rembourser les anciens, c'est du mistigris, tant que ça tient, c'est plutôt intéressant, mais il ne faut pas être là le jour où ça tient ou ça lâche. Et donc au niveau comptable ou au niveau de trésorerie, faut bien voir, je suis un des discours qu'on nous sert souvent, c'est oh c'est terrible, on a endetté nos enfants, la France est endettée. Ça, je pense que vous l'avez entendu deux trois fois quand même, enfin, je pense pas être le seul. c'est déjà quelque chose de faux. Alors, l'État est endetté, la France n'est pas endettée. Pourquoi ? Parce que on nous parle, et je vous en ai parlé beaucoup ce soir, des 1600 milliards de dettes publiques de l'État. Mais en face de ça, vous avez 1600 milliards de créances. Il y a bien 1600 milliards de bons du Trésor ou d'obligations d'État qui ont été émises et qui sont dans le patrimoine des gens qui ont de l'épargne et qui ont décidé directement ou indirectement d'investir dans des obligations publiques. Donc en ce sens-là, la France, entre guillemets, ne s'est pas endettée. Et il est complètement faux de dire qu'on a endetté nos enfants. Ça, c'est pas vrai non plus. Non, ce qui est vrai, c'est que les enfants des pauvres vont devoir rembourser de l'argent aux enfants des riches. Je suis désolé de caricaturer, mais bon, j'essaye de faire un petit peu, mais l'idée, elle est quand même bien là. L'idée, c'est que les contribuables ont une dette, mais la dette, ils vont la payer à qui ? Des créanciers. Et les créanciers sont français aussi. Et donc, pour ces personnes-là, qui peut-être vont payer des impôts par ailleurs, mais au final, ils vont être gagnants si vous remboursez. Il faut bien voir ce mécanisme-là. Et on ne parle jamais des 1600 milliards de créances. Et même, l'État s'interdit de savoir qui sont les détenteurs de sa dette. Alors, on n'a pas la liste des créanciers de l'État. Donc ce point-là est important aussi dans la réflexion et dans l'analyse. Voilà, donc au niveau de ce que font les banques centrales, oui, c'est vrai que les États-Unis actuellement ont un peu monétisé, bon, un peu, que l'argent qui a été créé pour le moment n'est pas passé dans l'économie directement. En fait, une bonne partie a été mise chez les banques et qui l'ont remis en dépôt à la banque centrale. Donc en gros, pour le moment, cet argent n'est pas vraiment redescendu dans l'économie. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne redescende pas dans l'économie. Dès que les banques auront des problèmes, elles vont faire redescendre l'argent, ce qui risque de déclencher de l'inflation. Ils ne sont pas loin d'ailleurs. Déjà, sur un chiffre officiel d'inflation de 4 à 5% les États-Unis, vous avez des chiffres officieux qui sont à 6-7% d'inflation aux États-Unis dans les meilleurs, dans les hypothèses encore prudentes. Voilà. Et vous avez l'Angleterre qui s'amuse à faire ça aussi. Mais après, toute la question, c'est jusqu'à quand ? Vous faites ça jusqu'à quand ? Un des risques, c'est un risque effectivement d'inflation. Vous avez un deuxième, qui est le risque de pourrir votre banque centrale. En tout cas, de susciter la défiance envers la monnaie. Si vous vous rendez compte que la banque centrale est en train de jouer à ce petit jeu, franchement, il ne faut pas garder des euros. Il ne faut pas garder des euros. Elle est en train, sciemment, de diminuer son pouvoir d'achat. Acheter autre chose. Et c'est ça le risque. Le risque d'avoir une fuite devant la monnaie. La rigidité allemande a fait que dans le traité de Maastricht, on a protégé tout ça pour le moment. La banque centrale n'a pas le droit normalement d'acheter directement de la dette d'État. Elle doit lutter contre l'inflation. C'est rigoureux, effectivement. Le seul avantage, c'est que ça nous évite les genres de catastrophes qui sont des risques majeurs de la situation. J'en parlais tout à l'heure. Je crains qu'évidemment, je suis à peu près sûr d'ailleurs, que tout ça ne tienne pas jusqu'à 2020. Mais c'est dommage. 2020, c'est l'année où on va pouvoir célébrer les 300 ans de la faillite de la Banque de l'eau. Qu'est-ce que la Banque de l'eau ? C'était la banque qu'avait créée John Law, John Lass parfois, dit à la française. En 1715, au moment de la Régence, il y avait un Écossais qui avait eu des problèmes chez lui, qui est venu en France, et qui a non pas inventé la première banque centrale, je dirais, c'est quand même les Anglais qui l'ont fait en 1694, vous voyez, pas très loin, en 1715, John Law dit, tiens, je vais essayer de faire la même chose. Donc il commence à créer une banque privée en France, la sienne, qui émet des billets de banque. C'était le premier billet de banque qu'il y a eu en France, gagé sur l'or. Très rapidement, cette banque a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Elle est vraiment, il y a eu une espèce de fusion entre cette banque et l'État. Donc la banque s'est mise à prélever directement les impôts. C'est devenu une espèce de banque de France avant l'heure. Sauf que, évidemment, il s'est mis à imprimer beaucoup, beaucoup d'argent, sans aucune contrepartie, en disant, c'est pas grave, hein, l'argent, il n'y a qu'à le créer, facile, hop, je le mets dans l'économie, ça va bien se passer. Ça s'est bien passé pendant 4-5 ans, et puis en 1720, évidemment, tout le monde a eu peur, et puis plus personne n'a voulu ses billets de banque, a demandé le remboursement, parce qu'évidemment, c'était convertible en argent, et très vite, la banque a fait faillite. C'était une faillite retentissante qui a suscité une méfiance pendant 150 ans sur l'argent papier en France. Que John Law ait fait ça, à la rigueur, on peut pas l'en vouloir, c'est le premier, il a essayé, bon, ça marche pas. Ça marche pas, mais vraiment pas, quoi. Et donc au final, il a ruiné les 10% les plus riches de la population à peu près, parce que les autres ont été remboursés. Voilà, donc première faillite retentissante par monétisation, forme de monétisation, d'hypercréation monétaire. Bon, il y en a eu pas mal dans l'histoire, dans plein de pays, enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez bien étudié. Voilà, ça se passe mal, avec 1923 en Allemagne, qui est évidemment l'exemple d'hyperinflation majeure, et qui a vraiment marqué au fer rouge les Allemands sur ce point-là. C'est pour ça que les Allemands ne veulent pas entendre parler de ce genre de solution, et ils ont à mon sens tout à fait raison. Vous avez eu de l'inflation, je sais plus, genre à 2 milliards de pourcents dans l'année. Voilà. C'était, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé pour ces gens à cette époque-là. Hein. Vous aviez un chèque le matin, il fallait courir à la banque dans la demi-heure, parce que sinon il ne valait plus rien le soir. J'ai acheté cet été un joli billet de l'époque de 200 milliards de marques, qui représentait 2-3 euros. C'est sympathique. Vous retrouvez des trucs très amusants, des timbres. Imagine le joli timbre. Le timbre qui faisait 2 marques, d'un coup il y a un tampon, il faisait 2 millions de marques. Le timbre, c'était quelque chose, ouais, une vraie destruction de la monnaie. Voilà, tout ça, c'est des risques majeurs. Et in fine, ça veut dire, j'essaie de conclure sur la partie dette, quoi. Il va falloir rééquilibrer ces sommes-là, puisque aux 1600 milliards de dettes publiques correspond 1600 milliards de créances publiques. Et pour rembourser, en théorie, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prélever 1600 milliards à votre population pour rembourser. Il n'y a pas de miracle. Vous allez prendre des impôts pour rembourser votre dette. Donc autrement dit, ça veut dire que l'existence de dette publique implique qu'il y a de l'épargne fictive. Hein, je répète, vous avez 3000 milliards d'épargne financière privée, mais on a tous 1500 milliards de dettes à rembourser. Comptablement, ça veut dire que l'épargne nette réelle n'est que de 1500 milliards. Entre guillemets, vous êtes censé payer 1500 milliards d'impôts. Les Français sont censés payer ça. Donc cette épargne, vue macroéconomiquement, elle est fictive. Bon, vue microéconomiquement pour celui qui a de l'épargne, elle n'est pas fictive du tout. On voit qu'il y a quand même un hiatus sympathique à ce niveau-là. Donc c'est en ce sens qu'en effet, je suis un peu un ayatollah contre la dette publique, je ne suis pas le seul, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Si l'État veut faire des investissements, et c'est très bien que l'État fasse des investissements, qu'il lève des impôts. On a inventé ça il y a 3000 ans. Je répète, il y a 13 000 milliards de patrimoine dans le pays. On peut tout à fait financer les investissements sans passer par la dette, qui est une cavalerie et une facilité qu'on connaît tous. Sauf que quand c'est des particuliers ou des entreprises, il y a quand même un banquier qui fait un minimum attention. Quand il n'est pas californien avec des subprimes en 2007, pour diverses raisons, en tout cas de dérégulation, enfin en temps normal, il fait quand même attention de ne pas être dans cette situation-là. Donc au bout d'un moment, vous la maîtrisez un peu plus, votre dette. Quand c'est public, il y a une espèce de mythologie de l'État qui, bien sûr, va toujours payer et qui, in fine, un jour ou l'autre, finit par ne pas rembourser. Tant qu'il rembourse, aussi, une petite incidente. Ce qui est scandaleux, c'est que finalement vous êtes dans un système où vous pompez des intérêts à tous les contribuables pour payer vous pompez des impôts à tous les contribuables pour payer des intérêts à la fraction la plus riche de la population. Il y a 50 milliards d'impôts sur le revenu en France, il y a 50 milliards d'intérêts à verser. Autrement dit, on paye tous l'impôt sur le revenu pour aller redonner ça tranquillement à 70% ou 10% les plus riches de la population. Donc c'est vraiment un impôt à l'envers, cette dette publique. Vous passez votre temps à lever des impôts pour rémunérer l'épargne des plus riches qui vous ont prêté leur argent, alors qu'il vous suffisait de prendre leur argent. Enfin, c'est ça qui m'amuse le plus. C'est-à-dire qu'au lieu, c'est ce qui est miraculeux dans le financiarisme. Avant, vous preniez l'argent des plus riches, là vous dites, non, j'ai une meilleure idée, je vais vous l'emprunter. Donc en trésorerie, je l'ai toujours, mais promis, un jour, je vais te le rendre. Ce qui en pratique ne se fait pas. Donc au final, on va juste leur dire, c'était des impôts que vous avez payés volontairement, merci. Mais c'était pas du prêt parce que je peux pas vous rembourser. Bon, après, je répète, il n'y a pas de secret sur l'historique de ce qui se passe pour les États en général. S'il y a des gens qui décident d'aller malgré tout prêter aux États, grand bien leur fasse. Ils perçoivent des intérêts qui font face au risque et qui rémunèrent le risque qu'ils prennent. Il arrive que le risque se réalise et dans ce cas-là, c'est un peu énorme d'avoir touché des intérêts pour le risque. Au moins, il y a le risque de dire ah non, mais moi je veux pas du risque, vous me remboursez quand même. Bah, dans ce cas-là, rends les intérêts alors. Il fallait choisir. Si c'était sans risque, il n'y aurait pas d'intérêt. Oui, parce qu'après on peut rentrer dans des détails et puis dire que, après tout, la dette qu'on doit à des personnes à qui on a déjà remboursé le capital sous forme d'intérêt, moi je vais pas me tirer la ceinture dans ces cas-là. Ils ont retrouvé leur argent de départ, ils imaginent qu'ils vont encore en percevoir, c'est pas mental. Je répète, je suis pas un théoricien du défaut, c'est malheureux d'en arriver là. Moi, ma vision en général, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait de déficit public. Vous fixez le niveau de vos besoins. Alors, si vous êtes socialiste, vous le mettez haut. Si vous êtes néolibéral, vous le mettez bas. Puis derrière, vous prélevez les impôts qui font face à ces besoins-là. Parce que l'État, c'est pas un ménage, c'est pas une entreprise, c'est même pas une collectivité territoriale. L'État, c'est quelque chose qui investit tout le temps. Donc, vous ne pouvez pas vous endetter pour investir tous les ans. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, vous pouvez vous endetter pour acheter une maison. Moi, je me suis endetté pour acheter une maison. J'ai acheté une maison une année, puis 29 ans qui suivent, je rembourse la maison.
Ouais, je pense que ça... pas une maison tous les ans.
Non. Je serai promoteur immobilier, j'achèterai une maison tous les ans. Tous les ans, j'achèterai une maison. Mais si mes revenus ne me permettent pas d'acheter une maison cash tous les ans, et que je m'endette, tous les ans de plus en plus, ça ne va pas marcher. C'est pas possible. Ah, c'est simplement cette distinction-là qui est extrêmement dangereuse. En tout cas, c'est ma vision, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein, mais en général, ça finit mal. Alors, dans les meilleurs des cas, ça finit juste mal. Dans le pire des cas, ça finit très, 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 très mal. La dernière fois, ça s'est très, très mal fini. Donc c'est pour ça que au niveau de la dette publique, oui, c'est pas...